Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent donc à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Au verset 14, Jésus continue, il nous est dit, « Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Au verset 21, je vais continuer la lecture. Jésus dira, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. On a lu un texte et je vais le replacer dans son contexte pour qu'on puisse bien le comprendre. Dans ce texte, on voit un échange entre des pharisiens et Jésus. Les pharisiens, qui c'était ? Eh bien, les pharisiens, c'était l'autorité religieuse la plus pointue de l'époque. C'était les gens qui se disaient être le plus proche de Dieu, qui se disaient connaître la vérité. Et c'est eux qui avaient, la plus grande connaissance des écrits religieux de l'époque. Et ces hommes-là, ils sont venus poser une question à Jésus. Et la question, ça concernait leurs disciples qui ne se lavaient pas les mains avant de manger. Et donc, ces hommes disaient, pourquoi ne se lavent-ils pas les mains avant de manger ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils disaient ça, ils demandaient pas à Jésus pourquoi les disciples ne se savonnaient pas les mains pour avoir les mains propres pour manger. C'était pas vraiment une question d'hygiène. C'était une question pour eux de purification. C'est-à-dire que pour eux, quelqu'un qui ne s'était pas lavé les mains avant de manger, il était impur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que la personne dans la rue, par exemple, avait peut-être touché des choses qu'il ne fallait pas. Et donc pour eux, c'est ce qui éloignait un homme de Dieu. Donc la question qu'il pose à Jésus, c'est pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains ? C'est-à-dire pourquoi ils n'observent pas la tradition des anciens pour se rapprocher de Dieu. On pourrait dire ça comme ça. Et Jésus, il nous est dit au verset 14, va appeler la foule et il va dire « Écoutez-moi tous et comprenez ». Et là, Jésus va expliquer une réalité spirituelle. Et ce soir, on veut avoir cette même attitude que la foule. On veut écouter Jésus et comprendre. Et dans ce texte, Jésus va expliquer que ce qui souille un homme, on va utiliser un autre mot, ce qui salit un homme, ce qui l'éloigne de Dieu, ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas la manière dans laquelle il va manger sa nourriture, ce n'est pas s'il va faire une sorte de purification avec de l'eau sur ses mains. Ce qui éloigne de Dieu, Jésus va le détailler, c'est autre chose. Et là, on le voit, il va le dire au verset 21, on l'a lu, « Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Et là, il commence à définir ce qui éloigne réellement les gens de Dieu. Ce sont ce que je viens de lire. Et peut-être que les personnes se sont reconnues dans ces choses. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. En un mot, la Bible, elle appelle ça le péché. C'est ces actions que nous faisons qui nous éloignent de Dieu. Et c'est ça qui rend l'homme sale. C'est ça qui le souille et c'est ça qui l'éloigne de Dieu. Dans un autre texte de la Bible, dans Ésaïe 59, je vais vous le lire, nous trouvons ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Et là, on voit très clairement que ce qui sépare l'homme de Dieu, ce qui salit un homme, c'est le péché. Ça porte un nom, la Bible l'appelle le péché. Mais Jésus va rentrer un peu plus en profondeur et il va nous dire d'où vient le péché. On l'a lu au verset 21, il dira « car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées ». Et au verset 23, il dira « toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme ». Et donc là, Jésus est en train de dire que le problème, le péché, il a une source, il a un endroit où il naît, c'est dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme. Et le problème, la source du vrai problème en réalité du péché, c'est le cœur de l'homme. Les pharisiens, qu'est-ce qu'ils regardaient ? Les pharisiens, ils étaient concentrés sur les mains. En fait, ils étaient concentrés, on va dire, sur leurs actions, sur ce qu'eux pouvaient faire. Mais Jésus va expliquer que le problème, il n'était pas tant dans leurs actions, le problème, il était dans leur cœur. La source du problème, c'était le cœur. Et souvent, le problème, ce n'est pas tant ce que l'on fait, ou la manière dont on fait les choses, le problème, souvent, c'est ce qu'il y a dedans, à l'intérieur, le cœur de l'homme. Dans la culture hébraïque, le cœur, ce n'est pas les sentiments, le cœur, c'est le noyau, si vous voulez, c'est ce que l'on est à l'intérieur. Moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois vos têtes. Solange me sourit, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être qu'elle est complètement abattue, je ne peux pas le savoir, parce que moi, je ne vois que le corps. Mais Dieu, lui, il nous a dit qu'il regarde au cœur. Au cœur. Et souvent, on a ce problème de regarder plus les actions, ce que l'on fait, plutôt que ce que l'on est. La Bible dit, dans Proverbes au chapitre 4 et au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et dans une autre version, la version du semeur, il nous est dit, enfin c'est le même texte qui est exprimé d'une manière différente, et il est écrit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Ça veut dire que le cœur, c'est la source de tout ce qui fait notre vie. Donc tout ce qui se passe dans notre vie, nos réactions, nos actions, nos sentiments, nos pensées, nos raisonnements, tout vient d'un seul et même endroit, ça vient de notre cœur. Et au final, en fonction des circonstances, la manière dont on réagit, la manière dont on vit, ça découle de l'état de notre cœur. C'est simple, en fait, ce que l'on est à l'intérieur conditionne ce que l'on fait à l'extérieur, nos actions. C'est ça que la Bible enseigne. Et souvent, le problème, c'est que nous, on regarde les conséquences et on ne regarde pas les causes du problème. Je vais donner un exemple pour imaginer. Imaginez que chez moi, je trouve une toile d'araignée. Ah, c'est un problème. Qu'est-ce que je fais ? J'enlève la toile d'araignée. Mais le lendemain, bizarrement, il y en a une autre. Donc qu'est-ce que je fais ? Je règle le problème. J'enlève la toile d'araignée. Et puis le surlendemain, il y en a encore une autre. Pourquoi ? Parce que le problème, ce n'est pas les toiles d'araignée. Le problème, c'est l'araignée. Je règle son compte à l'araignée, j'aurai plus de toile. C'est aussi simple que ça. Et nous, souvent, on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça ? Pourquoi dans telle situation j'ai fait ça ? Pourquoi là je me suis mis en colère ? Pourquoi là j'ai fait ceci ? Pourquoi là j'ai fait cela ? J'aimerais réagir différemment. Alors on va essayer de changer nos actions. Mais le problème, ce n'est pas nos actions. Le problème, c'est notre cœur. Le problème, ce n'est pas tant ce que l'on fait. Le problème, c'est ce que l'on est. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Le fruit, c'est quoi ? C'est les actions. Donc, imaginez que d'un côté, j'ai un pommier, mais c'est l'hiver, il n'a pas de feuilles, on voit que le bois. Et de l'autre côté, j'ai un poirier. Est-ce que vous sauriez faire la différence entre un pommier sans fruits et un poirier sans fruits ? Non. Comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la nature de l'arbre ? Comment on peut savoir ce qu'il y a dans l'arbre, au final ? Eh bien, c'est quand il y a du fruit. C'est-à-dire que quand la vie à l'intérieur de l'arbre, elle s'exprime, alors je sais quelle est la nature de l'arbre. Quand quelqu'un fait des choses qui sont méchantes, ça veut dire que dans son cœur, il est méchant. Quand quelqu'un fait des choses qui sont bonnes, ça veut dire que dans son cœur, il est bon. Donc, tout ce que nous faisons vient de notre cœur. Et ce que les pharisiens n'avaient pas compris, c'est que ce qu'il fallait nettoyer, ce n'était pas leurs mains, c'était leur cœur. Parce que quand le cœur est propre, les actions sont propres. Quand le cœur est sale, les actions sont sales. Et le problème, c'est que souvent, dans des églises, on essaye de faire à des gens qui ont un cœur mauvais des actions qui sont bonnes. Et c'est difficile, ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas marcher au final. Quelqu'un qui a envie de mentir, on lui dit il ne faut pas mentir. Si son cœur il reste menteur, ben ça va être difficile pour lui de ne pas mentir, puisqu'il aime ça. Si on dit à quelqu'un il ne faut pas être violent, et qu'au final, il va essayer de se contenir, et puis il va prendre le volant, il va aller dans les bouchons, et puis d'un seul coup ça va péter. Pourquoi ? Parce que dans son cœur, il n'est pas calme. Jésus dira aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Et on voit qu'il y a un ordre des choses. C'est que pour que l'extérieur soit propre, pour que nos actions soient comme elles doivent être, d'abord, il faut que l'intérieur soit nettoyé. Il faut nettoyer d'abord l'intérieur de la coupe ou du plat afin que l'extérieur devienne propre. En d'autres mots, il faut d'abord que le cœur soit changé avant que nos actions soient changées. Si le cœur est propre, alors nos actions seront propres. C'est clair ? Voilà. Donc maintenant, la vraie question, c'est au-delà de ce que l'on fait, comment nettoyer le cœur ? Comment est-ce que notre cœur peut changer afin qu'ensuite nos actions, ces choses qui nous éloignent de Dieu, puissent disparaître? Bon, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais avant de vous dire la bonne nouvelle, je vais vous dire la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme ne peut pas changer son cœur. La Bible dit dans Jérémie chapitre 13, verset 23, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Ou un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien ? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Et souvent, c'est vrai, on peut essayer de changer nos actions, mais le problème, c'est que notre cœur, il ne change pas. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est que nos actions peuvent changer, mais le fond, notre cœur, ne change pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas changer ce que vous faites, Dieu veut changer ce que vous êtes. Ça veut dire qu'il veut changer votre cœur. Et Dieu est capable à la fois de laver notre cœur, mais aussi de le transformer. En d'autres mots, il est capable non pas de changer ce que vous faites, il est capable de changer ce que vous êtes. On a un texte dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 18, qui dit que « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc on est tous pécheurs. « Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous avez vu le mot qui est utilisé, nous purifier. On pourrait dire nous nettoyer. De toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc là, dans ce texte, nous voyons que Dieu est capable de nous purifier de toute iniquité. Nous pardonner de tout péché. Quand on parle de tâche, c'est une manière imagée, vous comprenez bien. Dans notre cœur, c'est pas un tissu que l'on salit. En réalité, ce qui se passe dans notre cœur, quand on pêche, c'est qu'il y a de la culpabilité, il y a de la honte. Et dire qu'on lave les tâches, c'est quoi ? Ben en fait, c'est dire que les tâches sont pardonnées. La culpabilité est enlevée. Et ce texte nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que Dieu est capable de pardonner tous les péchés. Il n'y a aucun péché qui soit trop grand, qui soit trop énorme pour que Dieu ne puisse pas le pardonner. Il n'y a aucun cœur qui soit trop sale pour que Dieu ne puisse pas le laver. Et comme le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce soir, le Seigneur peut laver votre cœur et au final changer non pas ce que vous allez faire, mais changer ce que vous êtes. Et parce que vous serez différent, vous serez transformé, alors vos actions seront différentes. Alors comment est-ce que le Seigneur fait ça ? Comment est-ce qu'il enlève notre honte ? Comment est-ce qu'il enlève la culpabilité ? Comment est-ce qu'il enlève les tâches qui sont dans notre cœur ? Eh bien, il nous est dit dans la première épître de Pierre au chapitre 3 au verset 18 que Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Je vais modifier un peu le texte et je vais dire lui le pur, celui qui était sans tache pour nous qui étions avec des taches. Comment est-ce que Dieu enlève nos taches? Comment est-ce que Dieu enlève la culpabilité qu'il y a sur notre cœur? Eh bien, tout simplement, il les a prises et il les a mises sur Jésus, qui lui était sans tache. Sur un autre homme, ça n'aurait pas pu marcher. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Ça veut dire qu'on est tous tachés. Prendre une tache pour les mettre sur quelqu'un d'autre qui est déjà taché, non, ça n'aurait pas marché dans la justice de Dieu. Mais il fallait quelqu'un qui soit pur, quelqu'un qui n'ait jamais péché. Et cette personne, nous savons que c'est Jésus. C'est lui qui a souffert, lui, le juste pour des injustes. On va aller dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, et on va lire quelques versets, à partir du verset 4. Il nous est parlé de Jésus, et le prophète va dire ceci en parlant de lui. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, à cause de nos tâches. Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ou on pourrait dire, l'Éternel a fait retomber sur lui nos souillures, nos tâches, notre culpabilité. Au verset 10, il nous est dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, donc à cause de nos tâches, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Au verset 12, il est dit, à la moitié du verset, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Et on voit que Jésus n'est pas venu pour des gens qui étaient bien, des gens qui étaient justes, des gens qui n'ont jamais fait d'erreur. Jésus est venu justement pour des gens qui sont sales afin de les purifier en prenant leurs iniquités. Et c'est comme ça que Jésus purifie un cœur. C'est que toute la colère qui était pour nous à cause de nos péchés, elle est tombée sur Jésus à la croix. Et que le Seigneur, maintenant, nous purifie de tout péché et de toute iniquité. Donc la première chose, c'est que Dieu est capable de laver notre cœur. La deuxième chose, c'est que Dieu est capable de transformer notre cœur. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, voici ce que Dieu se propose de faire. Il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ça, c'est ce qu'on vient de voir. « Je vous purifierai de toutes vos souillures. » Mais voici ce qu'il dit juste après. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et là, on voit que ce que Dieu se propose de faire, c'est de prendre notre cœur de pierre, notre cœur qui est dur, et de mettre un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui est tendre. Il nous a dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et ça, dans la Bible, ça s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est avoir un cœur nouveau. C'est quoi une naissance? Antoine, c'est quoi une naissance? C'est quand on donne la vie à quelqu'un. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quand Dieu nous donne une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, on va aller le lire ensemble. On va voir comment est-ce qu'on fait pour recevoir cette vie nouvelle. Au commencement, alors chapitre 1er, verset 1er. « Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Au verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, » donc là il nous est parlé de la naissance, « qui ont reçu la vie, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et au verset 14, la parole a été faite chair et nous est parlé de Jésus. Donc si on résume, la parole était Dieu, en elle était la vie, et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Ça veut dire que tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu peuvent devenir enfants de Dieu. C'est tout simplement. La parole de Dieu, elle est vivante. Ce que je vous dis, qui est tiré de la Bible, ce message contient la vie. C'est tout simplement quand on le reçoit, quand on l'accepte, Dieu fait une œuvre. Elle nous est dit que ceux qui reçoivent cette vie, ça ne vient pas du sang ni de la volonté de la chair. Ça veut dire pas que ça veut dire que ça ne vient pas d'un frère ou d'un autre. Ça ne vient pas d'une église évangélique. Ça ne vient pas d'une religion. Ça vient de Dieu. Et ça veut dire que Dieu est capable de donner la vie nouvelle. Cette vie, en fait, elle se reçoit. Donc si on résume, il ne faut pas se focaliser sur nos actions. Le plus important, c'est notre cœur. Il faut que notre cœur soit purifié et il faut que notre cœur soit changé. Et pour que notre cœur soit changé, il faut le recevoir de Dieu. Car il n'y a que Dieu qui peut faire cette œuvre. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors on peut se poser la question, mais quelle est la part de l'homme dans tout cela? Eh bien, c'est le suivant. C'est que on a vu que la part de Dieu, c'est que lui, il aime l'homme et qu'il ne veut pas le laisser dans sa souillure. Donc il veut le sauver. Dans Jean 3,16, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que Dieu nous aime, il a donné son Fils, il l'a livré en sacrifice sur la croix. Donc, parce qu'il nous aime, il a pourvu au moyen de nous laver, mais aussi de changer notre cœur. Mais alors, c'est quoi la part de l'homme? Eh bien, la part de l'homme, c'est de le vouloir. Parce que qui dit un cœur nouveau, dit qu'on renonce à l'ancien. Et on ne peut pas vouloir qu'un nouveau cœur si on est trop attaché à l'ancien cœur. Au final, ça veut dire que notre part à nous, c'est au final de renoncer à ces péchés, à ces choses qu'on a lues tout à l'heure, qui souillent l'homme, qui nous rendent sales, et c'est de vouloir et de désirer ce cœur nouveau que Dieu est capable de nous donner. En sorte qu'un chrétien, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui reste avec son ancien cœur et qui essaye de faire de bonnes actions. Un chrétien, c'est quelqu'un qui veut que son cœur change, qui vient et qui demande à Jésus un cœur nouveau. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui fait l'œuvre et qui donne un cœur nouveau. Donc la part de l'homme, c'est tout simplement de se repentir, c'est-à-dire de changer d'attitude face à Dieu, face à son cœur. C'est de demander pardon pour ses péchés et c'est de croire dans ce que Jésus a fait à la croix. Et à tous ceux qui ont cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur a tout accompli sur la croix. Il est prêt à donner ce cœur nouveau, il est prêt à changer complètement, à laver complètement un cœur, mais la part de l'homme, c'est de le vouloir et de croire que que l'œuvre de Jésus à la croix est suffisante pour donner un cœur nouveau. Et si ce soir, vous voulez changer de cœur et vous voulez mettre votre confiance, non pas dans l'homme, non pas dans des méthodes, non pas dans votre propre force, mais si vous voulez mettre votre confiance dans ce que Dieu a fait pour vous à la croix, alors la Bible dit que vous aurez un cœur nouveau, et ce ne sera pas une église qui le fera, ça viendra directement de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce et pour ta parole, Seigneur. Et merci, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est ce que tu as fait. Tu ne nous as pas laissés dans notre état, mais tu as transformé notre cœur. Comme on l'a chanté, celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Et nous te disons merci, parce que vraiment, tu as changé notre cœur. Tu nous as pardonné, tu nous as purifié, tu nous as donné un cœur nouveau qui fait que toutes choses sont nouvelles. Tu dis que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta parole. Et tu vois, ce soir ceux qui aimeraient avoir ce cœur nouveau, ceux qui aimeraient non pas que leur action change, mais que leur personne, ce qu'elles sont, change, Seigneur, et tu es capable de faire cela, parce que c'est ta promesse et parce que ta parole est la vérité. Tu vois ceux qui ont été interpellés dans leur cœur, Seigneur, par ce message, que vraiment ce message puisse pousser à la repentance et puisse amener les cœurs à se confier en toi et à regarder à ce que tu as fait pour eux à la croix, Seigneur. Merci, parce que nous croyons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, Seigneur. Et nous te disons merci, parce que c'est ta parole à toi. Ce n'est pas nous qui la disons, mais c'est toi, c'est ce que toi tu dis, Seigneur. Alors, que ton nom soit béni. Amen.